bonjour à tous pour cette 30e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à trois notes de lecture différentes, mais qui se répondent et s'enrichissent l'une l'autre, même si les sujets qu'elles traitent sont très éloignés les unes des autres. La première concerne le livre de Gisèle Sapiro, « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?», qui traite de l'épineuse question entre les actes de l'auteur et la qualité et le sens de son œuvre. Comment apprécier ou non l'œuvre cinématographique de Roman Polanski alors qu'il est accusé de harcèlement sexuel? La seconde est relative à la définition de la création artistique selon l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui lors d'une conférence donnée en 1939 à New York, développe sa vision du mystère de la création artistique, titre du fascicule commenté. Le dernier est un ouvrage exceptionnel d'un groupe d'historiens, Tal Brüttmann, Stefan Ordler et Christopher Krusmüller, intitulé « Un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes », qui, à partir d'une analyse d'images extrêmement instruite, nous invite à relire les images iconiques qui proviennent de cet album. La programmation musicale qui accompagnera toute l'émission sera confiée aux fugues et préludes de Bach, joué par le jazzman Keith Jarrett, qui en donne une interprétation d'une grande simplicité et d'une grande limpidité.
Un peu de notes de lecture.
Le livre de Gisèle Sapiro, « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?», pose une question épineuse à double visage. Soit que l'œuvre est considérée comme autonome ou non autonome de son créateur. Sachant que ces deux options radicales sont situées d'une extrémité à l'autre d'un espace ouvrant sur une multitude de situations de plus ou moins autonomes, selon que l'on se situe du côté de l'œuvre ou de celui de l'auteur. Position que Gisèle Sapiro résume parfaitement dans sa conclusion. Peut-on dissocier l'œuvre de son auteur ? Oui et non, nous dit-elle. Oui, parce que comme nous l'avons vu, l'identification de l'œuvre et de l'auteur n'est jamais complète, et parce que l'œuvre lui échappe. Elle lui échappe d'abord dans le processus même de production, en amont en ce que le projet créateur est façonné par un espace des possibles et des pensables, et en aval en ce que la fabrication du sens de l'œuvre est le fruit d'un travail collectif impliquant une série d'intermédiaires. Elle lui échappe plus encore dans le processus de réception, car celui-ci n'est pas passif. Il passe par des formes d'appropriation qui peuvent être contradictoires. Que le sens d'une œuvre ne doive pas en théorie être soluble dans la multiplicité des interprétations subjectives n'empêche nullement qu'il le soit en pratique et chacun y projette les fruits de son imagination. Le début et le commentaire de l'œuvre ont précisément pour fonction de circonscrire les limites des interprétations plausibles. S'il est malheureux que, dans le feu de la polémique médiatique, les sentences prononcées se passent trop souvent d'un examen préalable des pièces du dossier, les controverses savantes sont là, et c'est heureux cette fois, que la lecture de l'œuvre ne suffit pas à stabiliser le sens. Non, car on ne peut pas dissocier l'œuvre de son auteur, car elle porte la trace de sa vision du monde, de ses dispositions éthico-politiques, plus ou moins sublimées et métamorphosées par le travail de mise en forme qu'il est nécessaire de porter au jour pour la comprendre dans sa sociogénèse comme dans ses effets. Qu'Elouil assume la pleine responsabilité, y compris dans ses effets qui lui échappent, telle est la règle du jeu, qu'Elouil en joue ou la déjoue. Il importe cependant d'analyser cette œuvre dans son évolution en rapportant les stratégies d'auteur et les stratégies de création aux transformations du champ de production culturelle, où elle s'inscrit et qui lui confère sa signification. S'il ne faut pas censurer les œuvres de l'esprit, j'émettrai une réserve en raison du caractère performatif pour celles qui incitent à la haine raciale et au sexisme, qui stigmatisent des populations vulnérables et qui font l'apologie du viol et de la pédocriminalité, à condition de distinguer apologie et représentation. Elles sont déjà sanctionnées par la loi, mais d'une part, la loi ne fait que codifier les normes d'une époque, et d'autre part, elle n'est pas toujours appliquée. Reste à savoir si l'on doit tolérer, voire récompenser les auteurs lorsqu'ils abusent de leur position d'autorité, ou qu'ils se servent de leur autorité pour propager des idéologies racistes ou sexistes. Les jurys sont souverains, ils agissent en âme et conscience et en toute responsabilité, et entre parenthèses, qui implique la complicité. Décortiquons grossièrement les éléments qui créent l'autonomie relative de l'œuvre d'avec son auteur. L'œuvre est une mise en forme de la vision que l'artiste porte sur le monde. Cette mise en forme, qu'elle soit un film, une partition, un tableau, va pouvoir exister sans son auteur, chez le collectionneur par exemple qui va l'acheter, ou plus tard, l'artiste mort, dans le musée qui va l'accueillir. L'on comprend aisément que la mise en forme est intrinsèquement liée à son auteur au moment où il la crée, qu'il soit conscient ou non de tous les éléments qu'il convoque lors de sa création. Ensuite, la mise en forme va vivre sa vie, lui échapper en fonction des investissements de ceux qui l'apprécient, la rejettent, qui sont indifférents, plus globalement, de ceux de la société. C'est pourquoi une figure symbolique, comme Jeanne d'Arc, est à la fois la combattante révolutionnaire, la première nationaliste et la pieuse bergère, vision que nous retrouvons dans les formes qu'en ont données différents artistes. L'art n'est donc jamais neutre. Et le mouvement de l'art pour l'art, un art qui n'a d'autre fin que lui-même, vise à écarter la réalité mouvante, plurielle et instable de la vie au profit d'une vision transcendantale. Si en effet l'art pour l'art conduit à ce que la forme créée par l'artiste se légitime par elle-même, il en découle que l'autonomie entre l'œuvre et l'artiste est totale. L'artiste n'a plus rien à voir avec l'œuvre et ne peut en être responsable car la société n'a plus de lien non plus avec elle, car l'œuvre la dépasse, la sublime, la transcende. L'artiste est dans une société et ne peut ignorer qu'il vit en son sein. Cette position vis-à-vis d'elle, qu'elle soit excluante, critique, concordante ou conciliante, s'inscrit dans l'environnement qu'elle crée, sachant qu'elle-même dépend de tous ceux et celles qui la constituent. Cet environnement dispose de règles, de valeurs, certes relatives, changeantes et instables, au regard du temps et de l'espace d'une société, mais qui la structure au moins un moment dans un espace donné, et parfois fort longtemps. L'interdiction du viol, de la pédophilie ou du racisme sont des règles morales dans notre société, que toute personne qui y vit, qu'elle les rejette ou non, ne peut ignorer ni exclure de son environnement. Qu'un artiste dans une œuvre prône la pédophilie, le racisme ou l'antisémitisme, qu'il le fasse par provocation ou par conviction, ne peut ignorer qu'il s'oppose aux règles de la société dans laquelle il vit. D'ailleurs, le fait que l'écrivain Céline se refuse à éditer ses pamphlets antisémites montre bien qu'il n'ignore pas le contexte de la société dans laquelle il vit. Peut-être a-t-il cru que la Seconde Guerre mondiale renverserait peut-être le système de valeurs, que la politique raciale et antisémite des nazis l'emporterait, s'approchant d'une société qui répondrait mieux à ses attentes. Cette vision que portait la politique raciale des nazis n'était que la fille de tout un courant eugéniste né en France et en Angleterre, en lien avec le développement du nationalisme au cours du XIXe siècle. En fait, l'enjeu moral se confronte à l'enjeu de liberté d'expression de chaque individu, car ce n'est pas tant de savoir si Céline a été ou est restée antisémite, mais de savoir si son œuvre l'est au-delà de sa mise en forme, de la qualité de son écriture, dans sa réception dans la société. La conclusion de l'auteur résume la thèse de son livre. Dans un premier temps, elle va examiner si l'œuvre peut ou non totalement s'autonomiser de son auteur. Dans un second, savoir si la pensée de l'auteur est totalement condamnable ou non dans le respect d'une liberté d'expression relative ou non. Elle note que l'œuvre peut s'autonomiser de son auteur par le fait même que l'auteur décide de dresser une distance entre lui et l'œuvre, en ne la revendiquant pas, en prenant un nom de substitution, par exemple Boris Vian, qui utilise le nom de Vernon Sullivan pour ses romans érotiques, soit par des stratégies de déresponsabilisation de l'auteur en distinguant le narrateur de l'auteur, en réprimant l'emploi du jeu, afin de faire dire au narrateur ce que l'auteur ne souhaite pas assumer. Dans ce sens, lorsque Houellebecq est attaqué en justice par des associations musulmanes pour son roman Plateforme, l'auteur s'indigne de la confusion entre ce que disent ses personnages de roman et des propos attribués à l'auteur. Saddam Rushdie défend Houellebecq au nom de la liberté d'expression et de l'autonomie de la littérature en écrivant « Dans le cadre d'un texte littéraire, on peut créer des personnages de toutes sortes. Si les romanciers ne peuvent plus dépeindre des nazis ou des personnages sectaires sans être eux-mêmes traités de nazis ou de sectaires, alors ils ne sont plus en mesure d'accomplir correctement leur travail. » L'œuvre s'autonomise ainsi de son auteur par sa réception par les lecteurs, les spectateurs, qui y projettent, comme pour chaque œuvre, leurs propres attentes. La complexité de cette autonomisation de l'œuvre de son auteur, c'est qu'elle n'est jamais sans intégrer le contexte social, soit dans l'engagement de l'auteur, soit dans les attentes de celui qui la reçoit. Autrement dit, un écrivain n'échappe jamais totalement à la vision qu'il a du monde, comme par exemple l'écrivain Céline ne peut écarter ses pamphlets antisémites de l'ensemble de son œuvre. De même, un lecteur ne peut écarter la réalité de ses pamphlets dans la lecture de cette œuvre. Grossièrement dit, nous pourrions dire que l'autonomie comme l'engagement politique sont socialisés. Mais des philosophes comme Sartre défendent une vision plus radicale de l'engagement. Gisèle Sapiro écrit « Selon le philosophe, le pour-soi est un être qui originellement projet, c'est-à-dire qui se définit par sa fin. Il est dépassement de ses conditions de possibilité dans la mesure où la conduite se détermine par rapport à un certain objet à venir qu'elle tente de faire naître. Aux yeux de Sartre, l'écrivain est l'incarnation suprême de cette liberté par rapport aux déterminations initiales, ce qui lui confère une responsabilité extrême. » Cette transparence entre l'œuvre et l'auteur suppose que son intention s'exprime avec la plus grande des libertés dans son projet de création, dont le pendant est l'extrême responsabilité de l'auteur. D'autres penseurs intègrent une approche plus socialisée des motivations, comme Max Weber, qui prend en compte le rôle des affects, et celle de Pierre Bourdieu, qui, comme l'écrit Gisèle Sapiro, a tenté de dépasser l'opposition entre finalisme et causalité mécanique avec les concepts d'habitude, de croyance et de stratégie. Les individus développent des stratégies plus ou moins conscientes pour s'ajuster à des conditions sociales plus ou moins stables, en fonction de leurs dispositions, habitus, de leurs croyances et de leurs intérêts spécifiques, lesquels dépendent des logiques de fonctionnement des champs où ils s'inscrivent. Les raisons de leur action sont des raisons pratiques qui, le plus souvent, n'ont pas besoin d'être formulées ni même de prendre la cohérence d'un projet. La création culturelle ou le travail intellectuel n'échappe pas à ce modèle d'analyse qui appréhende les productions de l'esprit comme le résultat d'une rencontre entre une trajectoire individuelle et un champ doté de règles et d'enjeux propres, comme on l'a vu. C'est pourquoi, selon Bourdieu, le sujet de l'œuvre n'est pas l'individu, mais le champ dans son ensemble. L'interaction entre l'auteur et le champ social s'avère donc bien plus complexe que la transparence entre l'intention de l'artiste et sa responsabilité. L'auteur écrit dans son introduction « Pour les œuvres de la création, à la différence des discours politiques par exemple, la conception occidentale moderne a établi la représentation de l'auteur comme un individu s'exprimant en son propre nom. Bien que discuté par des sociologues qui voient le sujet de l'œuvre non pas dans l'individu mais dans le groupe social auquel il appartient ou le champ de production culturelle auquel il se rattache, cette conception singularisante sous-tend les débats dont il sera question dans cet essai. Résumé grossièrement, l'artiste pensé complètement libre de la société dans laquelle il vit est totalement responsable vis-à-vis d'elle et de ses actions. Sa liberté d'expression est totale et son œuvre lui échappe pour transcender la vision qu'il porte de la société dans laquelle il vit. Qu'il en soit le martyr, le paria, le génie, le dieu ou le prophète, il est dans une position qui institue sa responsabilité de fait vis-à-vis de la société dans laquelle il vit, qui est le pendant de sa liberté totale, mais qui n'est pas celle de son œuvre, qui, elle, est porteuse d'une vision prémonitoire prophétique de la société. Nous nous rapprocherons des dires de Georges Baselitsch et de ceux de Lupert, de Marcus Lupert, que nous avons évoqués lors de la 20e et 23e émission. À l'inverse, si nous considérons que l'artiste n'échappe pas au champ social de la société dans laquelle il vit, sa responsabilité est appréciée à hauteur des schèmes sociaux, structurants et normatifs que sa liberté d'expression bouscule du fait de son comportement dans la vie ou dans le sens qu'il donne à son œuvre. La complexité dans notre société, c'est qu'elle valorise la liberté, l'égalité et la fraternité, la devise de la République, tout en s'appuyant sur un monde d'économie capitaliste qui prône l'individu, le patriarcat, la concurrence et la prédation. Cette présence de forces contradictoires explique aussi bien la radicalité de ceux qui défendent une liberté d'expression individuelle totale que de ceux qui dénoncent combien notre société capitaliste entrave les femmes, les peuples colonisés ou les minorités. Mais, avec une légitimation différente, les premiers esthètes considèrent l'art comme une finalité, les seconds contestent la structure discriminante du pouvoir capitaliste. La cancel culture rejette radicalement toutes les pensées et les actes qui portent des formes de discrimination sexiste raciale au motif que ces formes de discrimination sont structurelles à notre société capitaliste et qu'il convient de les révéler et de les combattre. L'incapacité des artistes à comprendre ou accepter cette réalité structurelle de la société les rend entièrement responsables de leur acte. Virginie Despentes, dans le quotidien Libération au sujet du César attribué à Polanski, écrit « Toutes les victimes de viols d'artistes savent qu'il n'y a pas de division miraculeuse entre le corps violé et le corps créateur. On trimballe ce que l'on est et c'est tout. Venez m'expliquer comment je devrais m'y prendre pour laisser une fille violée devant la porte de mon bureau avant de me remettre à écrire. Bande de bouffons. » L'auteur analyse finement les conditions historiques de ce champ social, libéral et capitalistique, aux USA et en France. Elle écrit « En France, cependant, la position esthète est plus largement admise, à tout le moins dans les univers culturels, et bénéficie du soutien de l'État, après 150 ans de lutte pour la liberté de l'art. Il en va de même pour l'autonomisation des œuvres de pensée. Depuis l'après-guerre, cette revendication d'autonomie peut néanmoins être, comme en Allemagne, l'expression d'un refoulement des enjeux éthico-politiques qui ont marqué l'histoire intellectuelle et artistique et un résidu de la lutte idéologique menée contre le marxisme au temps de la guerre froide. A l'inverse, aux États-Unis, bien que la liberté d'expression figure au premier article de la Constitution, les ligues de moralité ont été très puissantes socialement. Et le jugement moral sur les œuvres est plus accepté dans une société où la morale constitue un capital symbolique, y compris par les intellectuels et intermédiaires culturels. Qui plus est, l'histoire des combats contre le racisme institutionnel, depuis les luttes contre l'esclavage jusqu'au mouvement pour les droits civiques et aux mobilisations récentes contre les discriminations et violences raciales, a aiguisé les sensibilités et élevé le seuil d'intolérance par comparaison au pays de l'universalisme, aussi abstrait soit-il. Cette histoire reste néanmoins comparable au combat contre l'antisémitisme en France et ce plus récent contre l'islamophobie dans les deux pays. En revanche, la violence à l'égard des femmes n'était nulle part un tabou avant le mouvement MeToo. Le seuil de tolérance tient donc moins à des changements d'époque, comme on le dit souvent, qu'à l'histoire des luttes pour la liberté d'expression d'un côté, contre les discriminations de l'autre. Et l'auteur conclut, « En tant que sociologue spécialiste des univers culturels, je proposerai néanmoins en conclusion une position intermédiaire qui, sans nier les rapports entre morale de l'auteur et morale de l'œuvre, appelle à ce que les œuvres soient jugées de façon relativement autonome selon des critères spécifiques au champ de la production culturelle, à condition qu'elles ne comportent pas d'incitation à la haine contre des personnes ou des groupes en raison de leur origine, de leur sexe ou de leur préférence sexuelle, ni d'incitation à la violence physique ou symbolique. Ce qui ne doit pas empêcher, bien au contraire, le débat public sur les conditions de leur production et sur leurs auteurs. Débat qu'il est de bon ton pour certains d'assimiler à la censure, alors que son existence est vitale pour le travail de conscientisation des enjeux sociaux de la création et plus largement de réflexivité collective sur les formes de violence symbolique qui s'exercent sur nos sociétés. Pour conclure, l'auteur, en se revendiquant de sa position de sociologue, adopte une position intermédiaire qui reconnaît une autonomie relative aux œuvres, tout en précisant qu'elles ne doivent pas comporter d'incitation à la violence physique, à la haine et à la discrimination des personnes. Elle aborde les contradictions entre la vision de l'autonomie de l'œuvre, de la totale liberté d'expression de l'artiste et de leur dépendance au champ social en les relativisant. L'autonomie et la liberté seraient relatives au sein de la société et le champ social n'aurait de conséquences qu'au-delà de ces seuils de tolérance qui résulteraient des luttes sociales et que l'artiste devrait manifester au sein de son œuvre. Cette relativité devrait permettre justement de mieux comprendre les enjeux sociaux de la création et mieux expliciter les formes de violence symbolique de notre société. Les sociétés évolueraient en fonction de ces seuils de tolérance, résultant des luttes sociales en leur sein, définissant ainsi de nouvelles conditions de production de l'œuvre d'art, dont l'étude permettrait de mieux comprendre, aussi bien pour notre société que pour de précédentes ou de plus éloignées géographiquement de la nôtre. Chaque œuvre, chaque artiste, chaque pensée s'évaluerait à la suite de l'étude de ses conditions historiques, sociales du champ culturel et de celles personnelles de sa production.
Thank you.
peu de notes de lecture. C'est à l'occasion de mes pérégrinations dans les librairies que j'ai remarqué le livre de Stefan Zweig intitulé « Le mystère de la création artistique », qui est la reprise du texte d'une conférence donnée par l'auteur en 1939 à New York. Stefan Zweig est un immense écrivain autrichien né en 1881 à Vienne et mort en 1942 en exil au Brésil. S'il parle de mystère, c'est qu'il cherche à définir comment l'artiste crée une œuvre dans un monde où la religion n'est plus le lieu de sa définition. Stefan Zweig écrit « De tous les mystères du monde, celui de la création ayant été le plus mystérieux, nation et religion furent unanimes à relier le processus créateur à l'idée du divin. » Ce qui est le plus étonnant pour lui, c'est qu'il s'agit d'un homme normal. Il écrit « L'idée est excitante. Voilà un homme, comme tous les autres, qui dort dans un lit, mange à une table, est habillé comme vous et moi, comme nous le sommes tous, et puis soudain, cet homme réussit quelque chose qu'aucun de nous ne peut faire. Il a brisé la loi qui nous tient captifs, nous les hommes, il a vaincu le temps, car, tandis que nous autres mourons et passons sans laisser de traces, quelque chose de lui se perpétue à jamais. Comment ce miracle peut-il se produire dans un monde privé de Dieu qui est le nôtre ? Donc comment expliquer ce miracle de la création dans un monde sans Dieu ? Comment pouvons-nous connaître le processus de création ? Stefan Zweig est clair, il est impossible d'approcher le processus intérieur qui conduit à la création. Tout juste, nous pouvons que constater a posteriori comme il se produit et encore imparfaitement. Pour cela, il propose de mener une enquête, comme en criminologie. Stefan Zweig poursuit. Or, nous sommes confrontés à un phénomène remarquable. Il se trouve que les créateurs, écrivains, musiciens ou peintres, se comportent exactement comme des criminels endurcis et ne donnent jamais la moindre précision sur ce moment le plus intime de leur création. Si l'artiste ne dit rien, c'est que ce moment où il crée l'œuvre est trop intime et répond à un temps où l'artiste est immergé dans son monde et n'est plus en lien avec notre monde. Stefan Zweig écrit « Je le sais, cette non-présence de l'artiste à l'instant de sa production peut paraître illogique à première vue. Mais réfléchissons. En réalité, si l'artiste peut produire, cela ne lui est possible que dans un certain état d'éloignement de lui-même, dans un état d'extase. Le mot « extasis » ne signifiant rien d'autre, si on le traduit, qu'être en dehors de soi-même. Mais où est-il donc cet artiste au cours de ses instants productifs, s'il est à l'intérieur de lui-même ? La réponse est simple. Il est dans son œuvre, dans ses mélodies, dans ses personnages, dans ses visions. Et c'est pourquoi il ne peut témoigner pendant qu'il crée, non dans notre monde, mais dans son monde à lui. Stefan Zweig poursuit donc sa métaphore de l'enquête policière en disant « Aussi les artistes, les poètes et les peintres, les musiciens, en train de créer, ne savent pas observer eux-mêmes comment ils créent. Et ils sont encore moins capables de nous l'expliquer ensuite. Ce sont des témoins médiocres et inutilisables pour leur propre processus de création. Et en tant que criminologues, nous serions bien imprudents de nous fier aveuglément à leurs témoignages. Le processus artistique, et c'est un nouveau pas dans notre investigation, n'est donc pas de l'ordre de l'inspiration pure, ne se restreint pas à ce qui se passe derrière le mur du cerveau et sur la rétine de l'œil, c'est un acte de traduction, permettant le passage du monde de l'esprit à celui des arts, de la vision à la réalité. Et puisque cet acte, comme je viens de le montrer, se déroule principalement dans le matériau sensible, il laisse là même des traces substantielles qui remplissent l'état intermédiaire entre la vision incertaine et l'achèvement définitif. Je veux parler des travaux préparatoires, des études des musiciens, des ébauches des peintres, des versions successives des poètes, des manuscrits, tous les matériaux disponibles provenant de l'atelier. Et justement parce que ces documents laissés derrière lui par l'artiste sont des témoins muets, ce sont les plus objectifs, les seuls sur lesquels nous puissions prendre appui. Dans le déroulement de son texte, il oppose deux musiciens, Mozart, pour qui l'inspiration est spontanée, et Beethoven, pour qui elle est difficile et laborieuse. pour montrer à la fois que chaque créateur a sa propre méthode et qu'à chaque acte de création, il y a un combat entre ce qui se passe derrière le cerveau et la réalisation de l'œuvre. Stefan Zweig écrit « La décharge créatrice naît presque toujours de la tension entre ces deux éléments opposés. De même que dans la nature, le masculin et le féminin doivent se mêler pour que soit engendré un être nouveau. L'engendrement artistique résulte toujours d'un mélange des deux éléments, l'inconscient et le conscient, l'inspiration et la technique, l'ivresse et la froideur. Produire pour un artiste signifie toujours réaliser, faire passer de l'intérieur à l'extérieur une vision intérieure, une image onirique que son esprit a vue dans une forme parfaite, la porter dans notre monde en recourant à ce matériau rétif qu'est la langue, la couleur ou le son. L'artiste commence par rêver sa vision. Celle-ci est une représentation à laquelle il s'attache ensuite pour l'arracher en quelque sorte à l'invisible et la faire redescendre sur terre. Il conçoit donc que c'est en observant la méthode que l'artiste met en œuvre que l'on peut mieux approcher, apprécier et comprendre l'œuvre, mais aussi la singularité de son auteur. Stefan Zweig écrit « Chaque créateur a donc ses caractéristiques, son processus particulier qui lui appartient en propre et ne ressemble à nul autre. Il en va des moments de création comme des moments d'amour. Chacun a son mystère qui n'a rien de commun avec celui des autres. Il faut être attentif à cette infinie diversité pour entrevoir la diversité de l'art et de la vie. Il faut regarder un artiste à l'œuvre pour se faire une idée de la singularité de sa personnalité. » Ainsi, il suppose une forme d'intérêt, d'écoute, de recherche pour pouvoir apprécier l'œuvre. Il ne suffit pas d'être mis en relation pour la comprendre. Il faut apprendre à l'appréhender, à la connaître, notamment en examinant la singularité de son processus et ne pas craindre que ce processus s'étiole par le simple fait de l'avoir étudié. Stefan Zweig écrit « L'œuvre de l'artiste ne se livre pas à chacun au premier regard. Elle est comme une femme et veut d'abord qu'on lui fasse la cour avant d'être aimée. Si nous voulons vraiment sentir, il nous faut d'abord ressentir après lui ce que l'artiste a senti. Pour comprendre vraiment ses intentions, il nous faut concevoir à quelle résistance il s'est heurté en les réalisant. Il nous faut reconstituer son âme dans la nôtre. La vraie jouissance n'est pas une pure réception, c'est une participation intérieure à l'œuvre. Le sens de ces considérations était de montrer que si nous y appliquons toute notre énergie, il est dans une certaine mesure possible, même quand on ne produit pas soi-même, de se retrouver dans l'état créateur de l'artiste et de partager avec lui toutes les tensions et les péripéties qui vibrent entre le début et l'achèvement de son œuvre. Faisons donc attention de ne jamais céder trop facilement à la première impression, de nous satisfaire trop vite, car l'artiste n'est pas, lui, aussi satisfait de sa première ébauche, de sa première vision. Au lieu d'embrasser un paysage en haut d'une tour, chaque nouvelle découverte nous fait gravir une marche supplémentaire et, de feuille en feuille, notre œil devient plus expérimenté. Non, ni la beauté des étoiles ni la splendeur du ciel ne sont diminuées quand notre esprit s'efforce d'étudier les lois qui gouvernent cet espace inaccessible, quand nous nous efforçons de mesurer l'étendue qui nous sépare de ces étoiles et de calculer la vitesse du rayon lumineux dont l'éclat argenté parvient jusqu'à notre œil. Bien au contraire, la connaissance n'a jamais diminué le véritable enthousiasme. Elle ne fait que l'élever et le renforcer. De l'étude de ce texte, je relèverai plusieurs points. Premièrement, l'auteur emploie un vocabulaire qui relève de la religion, divin, mystère, miracle, afin de montrer combien la création n'appartient pas au monde contingent, mais bien à une vision rêvée, qui n'en est pas moins construite et critique. Rappelons-nous de la note de lecture de la 10e émission sur le livre de Thomas Schlesser, « Faire rêver de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire ». Je le commentais ainsi. Pour conclure, le recours au rêve durant la période des Lumières a permis de s'émanciper du règne de la religion. Mais le rêve s'est révélé ambivalent, puissance émancipatrice et cauchemar manipulateur, et cela dès le XVIIIe siècle. Le glissement de l'une à l'autre s'opère par la volonté de dominer le rêve pour faciliter la venue d'un monde harmonieux, hors de toutes les souffrances du réel. Mais tenter de dominer le rêve, c'est aussi ouvrir le champ à l'accaparement du rêve par toutes les formes d'autoritarisme et de fascisme. Le rêve ne peut conserver sa puissance émancipatrice que s'il permet à chacun de pouvoir contrôler son rêve. D'où les stratégies pour le rendre personnel, intime, inachevé, incomplet, toujours ouvert à l'interprétation, à l'inquiétude, toujours en éveil critique. Cependant, les technologies de communication et numérique offrent une telle puissance d'action sur les hommes, d'une part, car elles ont mis au point des machines à rêver efficaces, le cinéma, le jeu vidéo, qui nous immergent de plus en plus longtemps dans un monde virtuel proche de nous, et d'autre part, car en collectant une masse incalculable de data, mais pas uniquement sur le monde social, économique et politique, mais surtout sur chacun d'entre nous, elles peuvent nous manipuler de plus en plus facilement. Ces technologies s'appuient sur ceux qui créent, les artistes ou plus largement sur les créateurs. Ces derniers, rappelons-nous, sont, pour les productivistes, tout le monde, tout ouvrier et créateur de son propre travail. Dans ce monde libéral, les créateurs, c'est aujourd'hui nous tous. L'innovation, la créativité, le design nous impactent tous. Designer sa vie, son esprit, soyez innovant en tout domaine. Deuxièmement, il décrit la vision classique de l'artiste individualiste, l'esthète, le génie qui a le talent exceptionnel de pouvoir être inspiré et d'accéder à la maîtrise de tous les moyens techniques pour en créer une forme. Celle à laquelle Gisèle Sapiro fait référence dans la chronique précédente. Troisièmement, cependant, il prend bien soin de rappeler qu'il n'y a pas de contradiction entre l'inspiration et la connaissance. Il est important de ne pas accepter cette vision rêvée pour argent comptant, mais de chercher à la saisir, à l'étudier, à la critiquer pour amplifier sa connaissance et son plaisir. Ce rappel est d'importance car il n'y a pas d'art qui ne produit du sens et nécessite une réflexion sans s'exposer au contresens. La chronique suivante en est un exemple en démontrant de manière magistrale que nous ne pouvons accéder aux images qu'en les étudiant. Là encore, rien de contradictoire entre l'émotion, la sensation qu'une image peut créer et la nécessaire étude de l'image pour l'appréhender. De même, les machines fabricantes de rêves, ces machines onirogènes dont nous parle Schlesser, ne doivent pas nous éloigner du regard connaissant et critique qu'il nous appartient de porter sur les images qu'elles créent. Un peu de notes de lecture. Pour poursuivre notre réflexion, nous allons aborder un livre qui est le premier que j'avais choisi pour cette émission. Je pense qu'il est préférable de l'examiner à la fin, tellement son sujet est grave et son contenu magistral et éclairant sur la nécessité impérieuse de ralentir le flux médiatique des images afin de ne pas s'enfoncer dans une spirale mortifère du non-sens ou du contresens permanent. Seul un retour sur le temps de l'histoire, nous donne des gages pour mieux affronter la complexité de compréhension de notre monde actuel et de sa connaissance. Il s'agit d'un album de photographies de l'arrivée des Juifs à Auschwitz, notamment ceux provenant de Hongrie. Lily Jacob, une détenue qui, au moment de la libération des camps, a trouvé dans un baraquement un album où elle s'est reconnue et l'a emporté avec elle. Il était encore dans sa possession lorsque Serge Kartfel l'a décidé de le léguer à Yad Vashem en 1980. Il fallut attendre 30 ans pour qu'il soit publié la première fois et 40 ans pour en donner une lecture précise. Ce fut le travail collectif de trois historiens, Tal Brutmann, Stefan Ordler et Christophe Kreutzmüller, qui ont mené une véritable enquête policière pour analyser de manière extrêmement précise chacune des photographies, essayer d'identifier les photographes, les photographiés, aussi bien des détenus que des SS, de les dater, de comprendre leur ordre dans l'album, ainsi que de définir sa finalité. Ce livre comprend trois parties, une partie d'analyse critique, l'album publié in extenso et l'étude précise de chaque photographie. Il y a eu d'autres photographies du camp à cette époque, mais elles restent rares, si l'on exclut les 40 000 photographies du service anthropométrique, quatre photographies prises par Alberto Herrera grâce à l'aide des Sonderkommando autour d'une chambre crématoire, les 38 photographies de Stanislaw Mucha à la libération du camp par l'armée soviétique. L'album de Lily Jacob comprenait 197 photographies et reste le témoignage le plus important de l'extermination de masse des Juifs à Auschwitz. Cependant, les photographies ne sont que des instantanés et ne disent rien de ce qui se passe avant et après leur prise. De plus, elles ne donnent qu'une vue partielle que définit le cadrage de la photographie prise en contre-plongée, vue de face ou vue d'en haut. Les historiens nous rappellent. Mais les photos ne sont pas seulement des preuves. On les considère comme des fenêtres sur un passé révolu et elles façonnent l'image que nous nous faisons du passé, des fêtes de famille comme des crimes. Elles le font alors qu'elles ne montrent qu'un détail de l'action circonscrit par l'objectif et déterminé par le ou la photographe. Même si celle ou celui qui photographie ne donne pas d'instruction derrière son appareil, l'acte même de la photographie agit la plupart du temps sur ceux que l'on photographie. Les photos sont toujours partiellement mises en scène, ne serait-ce qu'en raison du choix du cadrage. Mais bien qu'on en sache tout ça, elles ont tout de même une aura qui fait croire qu'elles montrent ce qui est authentique et qu'elles sont des reproductions objectives. Et bien que chaque image prise séparément ne soit donc qu'un instantané arraché au temps, limité par la perspective et construit artificiellement, montrant des faits donnés pris isolément, elle s'insère au sein d'une succession de faits qui constitue un ensemble, notamment pour ce qui nous concerne, comme ici, les crimes et les violences. Car dès lors, elles reproduisent avant tout une réalité et une interprétation perçue subjectivement. Les photographies ouvrent aussi à ceux qui les observent un espace pour d'autres interprétations ainsi que pour des possibilités d'utilisation et des modes d'emploi différents. Ainsi, le travail d'historien consiste à démontrer quelle lecture nous pourrions avoir de ces photographies. En les inscrivant dans une histoire précise, en dévoilant la structure de la mise en page de l'album, ses auteurs et ses commanditaires, afin d'éviter de les lire faussement. Les auteurs poursuivent. En raison notamment de leur composition parfois esthétique, des photos comme celles qui figurent dans les albums d'Auschwitz sont devenues des symboles et des icônes, sans que l'articulation, l'intention et la perspective qui les sous-tendent aient été soigneusement questionnées. Le commanditaire est le plus souvent la SS pour l'administration ou pour le compte de hauts dignitaires comme Himmler. À Auschwitz, comme dans les autres camps concentrationnaires, le service photographique d'anthropométrie relevé du département politique du camp, lui-même directement attaché à la police d'État, qui pratiquait les enregistrements des détenus et les interrogatoires. La notion d'anthropométrie fait directement référence aux critères raciaux des personnes. Les historiens établissent que l'album a été réalisé pour documenter un rapport sur l'opération Action Reinhardt, nom de code pour signifier le programme d'extermination de masse, et plus particulièrement sur celle des Juifs hongrois en 1944, qui fut confiée à un spécialiste, Rudolf Höss. Ce dernier vint prendre le commandement du camp d'Auschwitz pour en assurer la bonne réalisation. Ces photographies devaient témoigner de l'efficacité de cette opération. Du 14 mai au 9 juillet 1944, ce sont 422 000 déportés, majoritairement juifs, qui arrivèrent à Auschwitz, à bord de 147 convois. Rudolf Höss partit en juillet 1944, sa mission accomplie. Les deux photographes qui sont intervenus pour réaliser l'album sont ceux du service d'anthropométrie, Bernhard Walter et Ernst Hoffmann. Ils interviennent dès le début du premier convoi et les jours suivants, c'est-à-dire à partir du 16 mai 1944 et probablement jusqu'au mois d'août 1944. Les historiens ont pu dater les photographies des convois en fonction de tous les détails visuels de l'espace. Par exemple, rampe encore incomplète en raison de la présence d'un train transportant des graviers, indications repérées sur les wagons, comme le nom du doyen du wagon, c'était celui qui au départ du train avait la charge de veiller au bon déroulement du voyage, ou la recherche de la météo du jour. Mais aussi des endroits de la photographie, la rampe, le petit bois près des crématoires, l'orientation aussi de la photographie, porche d'entrée, mais aussi présence d'une grue, des lieux de prise de vue, que ce soit sur le toit d'un wagon, sur le tampon d'un train. Ils purent ainsi reconstituer l'album en rapprochant les photographies d'un même jour grâce à une succession de photographies comportant des mêmes points de repère, de personnes, de la présence d'un camion sur la rampe, des soldats et des éléments architecturaux. Un vrai travail d'enquête. Lily Jacob nous raconte comment elle a retrouvé l'album dans un baraquement lors de la libération du camp Kazet-Mittelbau où elle avait été transférée. « J'étais très faible, en sous-nutrition, et je me suis effondré. Mes codétenus m'ont conduite dans une caserne jusqu'alors occupée par des nazis. Elles m'ont couché sur un lit, et j'y suis resté allongé un certain temps. Au bout d'un moment, je me suis senti toute froide, je frissonnais. Et j'ai tenté de trouver quelque chose pour me couvrir. J'ai ouvert la porte d'une petite armoire de chevet, j'y ai trouvé une veste de pyjama que je possède encore aujourd'hui. Et en dessous, il y avait un album. Quand je l'ai ouvert, j'ai reconnu la photo du rabbin de ma ville natale, celui qui avait marié mes parents. Et en feuilletant, j'ai reconnu mes grands-parents, mes parents et moi-même. Depuis, j'ai senti que c'était le seul lien qui me soit resté. » Il s'avère que Bernhard Walter s'est retrouvé au camp Kazet-Mittelbau à l'arrivée de l'armée soviétique et a été l'un des derniers à partir précipitamment. Les historiens en ont déduit que, probablement, l'album de Lily Jacob était le sien, sorte d'ébauche de l'officiel qui avait été remis probablement à Rudolf Höss en accord avec ses supérieurs hiérarchiques. Peut-être un jour en retrouverons-nous un exemplaire. De toute cette histoire, les historiens ont conclu qu'il s'agit d'un document photographique pour accompagner un rapport administratif signifiant le succès du programme de Hongrie. Par conséquent, ceux qui ont fait les photographies sont ceux qui ont mis en œuvre le programme d'extermination. Le système était bien organisé, il y avait deux voies, une longue rampe où les déportés arrivent. Des détenus descendent du train et sont triés, ceux qui peuvent travailler et ceux qui sont trop faibles. Les vieillards, les femmes et les enfants qui sont directement dirigés vers le four crématoire. Ceux qui ne peuvent pas se mouvoir sont pris en charge par un camion qui fait l'aller-retour le long de la rampe jusqu'au complexe de mort, chambre à gaz et four crématoire, sachant qu'il est situé tout au bout de la rampe. Les auteurs détaillent l'arrivée du convoi de Lily Jacob. Un mois plus tard, environ le 24 mai 1944, la SS déporta la famille Jacob à Auschwitz-Birkenau. Le convoi y arriva au petit matin du 26 mai 1944 et fut photographié à son arrivée par les SS Bernhard Walter et Ernst Hoffmann. La liste des convois tenus par l'employé des chemins de fer hongrois Itzvan Vransky à la gare frontière de Kassa semble prouver qu'il s'agissait de 2602 personnes. Les photos de Walter et Hoffmann montrent toutefois un long train composé d'au moins 60 voitures et qui dépassait même de l'aiguillage situé à l'extrémité de la rampe. Comme on entassait en moyenne 70 personnes par wagon, cela était le chiffre de 3500 déportés cités par Peter Hellman et Gideon Griff, même si une partie de ces voitures pouvait contenir des bagages. Selon la compilation de l'ancien détenu Léo Glaser, 551 hommes ont été admis dans le camp après la sélection. Le nombre de femmes qui n'ont pas été assassinées immédiatement est inconnu, mais il est très vraisemblablement encore plus bas que celui des hommes. Les détenus devaient déposer leurs baluchons et leurs affaires sur le quai. Ceux-ci seront ensuite rassemblés et triés dans une autre partie du camp et entreposés dans des baraquements. L'organisation de l'album témoigne des objectifs du rapport photographique. Les auteurs écrivent. Pour reprendre l'argument justifié de Cornelia Brink, l'album de Lily Jacob se situe dans une ligne traditionnelle de ces preuves officielles de réalisation avec lesquelles les fonctionnaires de la SS présentaient à leurs supérieurs, sous forme documentée, le déroulement sans friction de leur activité. Des rapports comparables ont été établis pour la liquidation du ghetto de Varsovie ou pour l'assassinat des Juifs de Galicie. L'album commence par deux portraits de Juifs qui répondent à la typologie raciale des nazis, portant la mention écrite « Réimplantation des Juifs de Hongrie ». Puis il comprend une série de photographies du débarquement des déportés sur la rampe qui porte la mention écrite introductive « Arrivée d'un convoi ». Puis des portraits d'hommes sur la rampe portant la mention « Hommes à l'arrivée ». Puis des groupes d'hommes portant la mention « Hommes encore aptes ». Puis des groupes de femmes portant la mention « Femmes encore aptes ». Puis des groupes d'hommes portant la mention « Hommes encore plus aptes ». Puis des femmes, des groupes de femmes portant la mention « Femmes plus aptes et enfants ». Puis des hommes, puis des femmes habillées de vêtements de camp portant la mention « Après l'épouillage ». Puis des groupes regagnant le camp de travail portant la mention « Installation dans le camp ». Puis les bagages et baluchons sur la rampe laissés par les arrivants, chargés dans des camions, déchargés et triés portant la mention « Effet ». En conclusion, il est évident que le rapport ne vise qu'à mentionner une organisation réussie sans évoquer le cycle de la mort. Juste l'entrée dans les camps, la sélection de ceux qui sont aptes au travail, de ceux qui ne le sont pas, et l'entrée dans le camp de travail et la récupération et la gestion des bagages des arrivants. Ceux qui ne sont pas aptes disparaissent, ils deviennent invisibles ou sont-ils passés? Ces photographies nous montrent un déroulement fluide, sans violence, sans incident de l'opération. Des personnes sans réaction, sans aucun drame, qui se laissent tranquillement mener à l'abattoir. Des dessins faits dans les camps évoque la grande violence des séparations, la brutalité des gardes. Mais ici, tout est calme. Seules, des femmes tirant la langue aux gardes sont à peine visibles sur les photographies, exigeant un examen scrupuleux de chacune d'elles. Geste ultime de résistance. Ces photographies mentent, car elles effacent tout ce qui pourrait montrer la tragédie qui se noue. Et pourtant, elles sont les rares témoignages visuels de cette tragédie. Les historiens précisent «